Seront publiés à 16h les chiffres des ventes de logements neufs aux États-Unis. L'euro abandonne 0,33% à 1,1846 $. Sur les marchés de l'or, à Paris, le lingot cote 10 740 €, le Napoléon 60,80 €, à Londres, l'once d'or fin vaut 396,50 $. Voilà clair, je vous rappelle le CAC, plus 0,37% à 3 825 points. La Bourse de Paris, c'était Vincent Bezeau pour France Inter.
Merci Vincent, il y a des courses cet après-midi à Chantilly. Nous avons déjà l'arrivée provisoire de la première, 3, 7 et 5. Vous écoutez France Inter. Il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
Bonjour Claire et bienvenue à tous dans cette deuxième semaine spéciale de 2000 ans d'histoire consacrée aux 10 nouveaux membres de l'Union Européenne. Aujourd'hui, 1945-2004, la Pologne de la botte soviétique à l'Europe des 25.
Si nous ne rejoignons pas l'Ouest à temps, l'Est va nous rattraper. Lech Walesa, 1995.
Deux mille ans d'histoire. Avec 38 millions d'habitants et 313 000 km², la Pologne est le plus grand et le plus peuplé des 10 pays qui entreront samedi prochain dans l'Union Européenne. Un de ceux aussi qui a été le plus profondément marqué par l'histoire. Dépecé au XVIIIe siècle par ses puissants voisins autrichiens, prussiens et russes, la Pologne n'a retrouvé son indépendance au XXe siècle que pour la perdre à nouveau deux fois. En 1939 quand elle fut envahie par l'armée allemande, puis en 1945 quand elle devenait un satellite de Moscou. Mais bien avant la chute du mur de Berlin, elle fut aussi la première à faire vaciller l'immense empire soviétique. C'était le 31 août 1980, quand les 16 000 ouvriers des chantiers navals de Gdansk obtenaient la reconnaissance du premier syndicat libre du monde communiste. À leur tête, un électricien de 37 ans, si peu connu que 15 jours avant sa victoire, il devait se présenter lui-même aux journalistes occidentaux. France Inter, Pierre Gans, le 14 août 1980.
Moustache noire à la gauloise, barrant un visage bonhomme, chemise ouverte sur un veston élimé, Walesa rayonne en permanence d'un sourire généreux et malicieux. Ce père de 6 enfants est devenu en quelques jours une vedette mondiale. Ce gréviste est très croyant. Quand je me heurte à un problème, explique-t-il, je vais à l'église et je prie.
Je suis un peu maladroit, je ne suis qu'un ouvrier, je ne suis peut-être pas très cultivé, mais j'ai du cœur. Soutenez les grévistes, ils sont très fatigués. De toute façon, on tiendra, même si ça doit durer 5 ans.
Daniel Beauvois, bonjour.
Bonjour.
C'était le 14 août 1980, sans doute la première fois qu'on entendait parler de Lech Walesa et que l'on entendait sa voix. Alors la voix de celui qui, 9 ans avant la chute du mur de Berlin, allait ébranler l'immense empire soviétique. C'est un moment important, considérable, bien sûr, dans l'histoire de la Pologne, à laquelle vous avez consacré un livre aux éditions de La Martinière. Alors, avec vous, nous allons rappeler seulement les 60 dernières années de l'histoire de ce pays, qui en 1945 devenait donc progressivement un satellite de l'URSS, alors qu'il avait été avant un des pays sans doute les plus éprouvés par l'occupation allemande pendant la guerre.
Oui, absolument. Et la phrase de Lech Walesa que vous rappeliez est particulièrement caractéristique de l'état d'esprit des Polonais d'aujourd'hui. C'est une phrase qu'il a prononcée en 95, alors qu'il allait déjà bientôt perdre la présidence de la République suite à la dégradation de son image. Bon, voilà un homme que vous avez présenté comme effectivement un ouvrier qui est sorti du rang, un homme très modeste qui a réussi, qui a connu un destin absolument extraordinaire et qui a finalement perdu tout crédit dans son pays après 95. Mais cette obsession qu'il signale de la nécessité de rejoindre l'Ouest parce que l'Est est menaçant, eh bien, trouve ses racines dans les événements qui se sont produits en Pologne en 45, lorsque le pouvoir communiste est apparu comme inéluctable, en quelque sorte, suite aux accords qui avaient été précédemment conclus entre Churchill et les Américains, puisque finalement, toute l'histoire de la Pologne, déjà au XIXe siècle, mais surtout au XXe siècle, est une histoire d'abandon de l'Europe vis-à-vis de ses aspirations.
Et ça, dans un pays qui n'a pas de parti communiste, contrairement à la Tchécoslovaquie dont nous avons parlé la semaine dernière, le parti communiste est quasiment inexistant, voilà que se met en place un régime communiste avec un parti qui se prétend vouloir s'ouvrir à toutes les formations politiques ou presque, qui s'appelait le PZPR, le Parti Ouvrier d'Unification Marxiste et Populaire, et le POUP, hein, en France, on disait le POUP, et alors un parti qui élimine toute opposition très vite à la fin des années 40, et même d'ailleurs les éléments non-staliniens de ce parti. Par exemple, dès le début des années 50, on élimine le premier patron du parti qui était Gomulka, Daniel Beauvois.
Oui, tout à fait. La mise en place du régime communiste en Pologne s'est faite, on peut le dire, grosso modo, en trois étapes. En 45, il y a encore une opposition, disons, de centre-droit très puissante. C'est celle du PSL, le parti paysan, qui dépasse de très loin le monde paysan d'ailleurs, puisqu'il regroupe pratiquement tous les intellectuels et toute l'opposition non communiste. C'est avec Mikhaïlchik, un homme qui est revenu de Londres et qui a cru un moment pouvoir collaborer avec les soviétiques, ce parti a été tout de suite éliminé dès les élections de 47, après déjà un référendum en 46 qui laissait prévoir cette évolution. Ensuite, les communistes se sont débarrassés du Parti Socialiste, qui était très puissant dans la Pologne d'avant-guerre, le PPS. Et la chose s'est réalisée en 48. Pourtant, les socialistes avaient joué jusqu'à cette date un rôle tout à fait considérable dans la restauration économique de la Pologne. Et à partir de 49, les communistes s'éliminent entre eux et éliminent ceux qui sont encore tentés par une solution, disons, polonaise du communisme. Et c'est le cas de Gomulka que l'on accuse de déviationnisme de droite, déviationnisme national.
Alors Gomulka va le revoir revenir au pouvoir en 1956. Cette année-là se produit une des premières révolutions dans le monde communiste, la révolution ouvrière à Poznan, qui est très brutalement réprimée. Et on fait appel à Gomulka, qui est libéré de prison pour prendre la tête et du parti et du gouvernement polonais. On l'écoute justement en 1956 reconnaître et dénoncer la brutalité du régime précédent, Gomulka, en 1956.
W ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła, wiele nieprawości.
La vie a connu bien des déboires en Pologne, de grandes injustices et des déceptions douloureuses. L'idéal socialiste, l'esprit de liberté et le respect pour la vie humaine ont été dans les faits grossièrement bafoués.
Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości.
Alors c'était Gomulka en 56. Il faut rappeler que Staline est mort depuis déjà 3 ans et que se produit en URSS la déstalinisation. Gomulka, évidemment, en est un partisan assez populaire au début d'ailleurs en Pologne à cause de son patriotisme polonais, de ce communiste.
Très populaire même, oui. Je crois que son retour marque une vague d'espoir absolument extraordinaire. Le stalinisme pur et dur a duré relativement peu de temps en Pologne. Il a duré 3 ou 4 ans, disons, entre 49 et 53-54. Bon. Et Gomulka est tiré de prison dès 55. Il est en résidence surveillée. Et on a recours à lui, en quelque sorte, comme un sauveur, parce qu'il incarnait peut-être une voix nationale. Et il a été remis en selle par Moscou, qui n'avait pas beaucoup d'autres choix suite aux événements de Poznan qui avaient été très sanglants, très violents et qui menaçaient le régime. Déjà,
Il relâche la censure, il abandonne la collectivisation forcée, il ouvre même la Pologne aux pays occidentaux et même à l'Allemagne, du moment qu'elle reconnaît à partir d'un certain nombre d'années les frontières entre la Pologne, ça c'est un problème important
très pour
les Polonais, les frontières entre la Pologne et l'Allemagne. Alors en revanche, le régime Gomulka se durcit à son tour assez vite. Hein. On sait qu'en 68, Gomulka a fait participer la Pologne à la répression du printemps de Prague, et puis deux ans plus tard, il va envoyer l'armée Gomulka pour réprimer un deuxième mouvement de révolte à Gdansk en 1970, hein, 10 ans avant les événements dont nous allons parler.
Eh oui, je crois que c'était un peu inéluctable, dans la mesure où Gomulka se remettait au service des Russes, quoi qu'il en eût et quoi qu'il ait dit. Très vite, dès 57, il restaure la censure, il liquide les revues libérales qui étaient apparues, et effectivement, de plus en plus, le régime prend une teinte inquiétante. Économiquement, la stagnation est terrible, les Polonais sont très mécontents, et en plus, il y a une montée de l'antisémitisme autour de 68.
Ah oui, très forte, vous le mentionnez dans votre livre, impressionnant.
Assez forte. À l'intérieur du parti, les nationalistes tolèrent de moins en moins la présence de nombreux juifs revenus du RSS, et cela entraîne des discours de Mozart qui menace le pouvoir de Gomulka à ce moment-là, et on arrive en même temps à une protestation d'étudiants qui, elle, a lieu au nom des idéaux nationaux. C'est assez curieux, c'est assez caractéristique du romantisme polonais, c'est suite à la représentation d'une pièce un peu culte du répertoire polonais, une pièce de Mickiewicz qui s'appelle Les Aïeux, qui avait été très mal noté par l'ambassadeur soviétique à Varsovie, que les étudiants se sont massés dans les rues et les manifestations ont été réprimées avec une très grande violence. Et finalement, les deux facteurs ont joué concomitamment pour provoquer une sorte de purge dans le régime.
Il y a une autre force dont il faut parler, Daniel Beauvois, parce que c'est pratiquement la seule opposition qui soit acceptée. On ne peut pas faire autrement, d'ailleurs, dans ce pays qui est très catholique, des pratiquants. C'est justement le pouvoir de l'Église qui est considérable.
Tout à fait. L'Église, à ce moment-là, est encore assez prudente, mais elle a un chef dans la personne de son cardinal primat, qui est très habile, qui manœuvre avec une très grande prudence, et on peut dire que finalement la traversée de l'époque communiste par l'Église a été en quelque sorte pour elle une cure de jouvence, si l'on peut dire, parce que en un sens cette Église qui avant la guerre était un pivot profondément réactionnaire, enfin qui soutenait vraiment le monde de la finance et de la grande propriété, etc., s'est trouvé à travers ces persécutions très très douloureuses à l'époque communiste, obligé de prendre en considération les problèmes sociaux, et comme vous l'avez bien souligné, elle a acquis un statut d'arbitre en quelque sorte et de seul refuge.
Et l'Église, évidemment, enthousiasmée par l'élection en 1978 d'un pape polonais, Jean-Paul II.
Alors là, évidemment,
franchissant
déjà
qui vient dans
un
la
autre
Pologne,
pas, oui.
Qui vient en Pologne, et puis alors la Pologne qui ne parvient pas à sortir de ses difficultés économiques et qui en 1980, 10 ans après la première révolte de Gdansk, se révolte à nouveau à Gdansk. Là, le parti, le gouvernement de Žižek à l'époque est obligé de céder et de signer avec un nouveau syndicat, le syndicat Solidarité, et son chef Lech Walesa, un accord historique dans le monde communiste, puisqu'il reconnaissait l'existence d'un syndicat indépendant du pouvoir, France Inter, Bertrand Vanier, pardon, le 31 août 1980.
En Pologne, les grévistes ont gagné. Le compromis a été signé hier à Gdansk, et c'est Lech Walesa lui-même qui l'a annoncé au gris des chantiers navals. Écoutez.
Vous voyez, c'est écrit là, c'est signé. On n'arrête pas la grève. Vous voyez, je ne vous ai pas trompé.
Mmh.
La première étape est finie, mais la deuxième me fait peur. On va chercher à nous tromper, mais on va se battre. Je sais que je ne suis pas seul. Je partage cette responsabilité avec vous. C'est une force, une très grande force.
Et c'était Lech Walesa annonçant le 31 août 1980 la signature des accords de Gdansk, la victoire d'une révolte qui n'est pas la première dans le monde communiste, il faut le rappeler. Il y en a déjà eu plusieurs, en 53, à Berlin, en 56, à Budapest et à Poznan, nous l'avons dit, en 68, en Tchécoslovaquie, en 70, déjà à Gdansk. Mais c'est là la première fois qu'une révolte réussit, ce que ne manque pas de souligner les journaux français au lendemain des accords du 31 août 1980, la revue de presse Stéphanie Denka.
Oui, tout le monde en France, bien sûr, se réjouit de cette victoire inespérée. Et prend la mesure historique de l'événement à la une de France Soir, la photo célèbre de Lech Walesa, le héros de l'été polonais, porté en triomphe par ses camarades après la signature de l'accord. Incroyable, s'exclame le Matin de Paris. Toute la Pologne se pince encore pour y croire. Qui pouvait imaginer, il y a seulement 19 jours, une victoire aussi large sur la liberté syndicale et le droit de grève. Pour le journal catholique La Croix, ces accords sont une victoire de l'esprit, car dit ce journal, le peuple polonais nourrit son dynamisme national dans la foi chrétienne. Alors que Bernard Marguerite, dans le Figaro, y voit, lui, une victoire de la raison. Les accords de Gdansk représentent, dit-il, un tournant historique en Pologne et même une fissure dans l'ordre socialiste. On ose y croire, écrit également le Parisien. Ce qui a échoué dans l'humiliation et la douleur au printemps de Prague est-il en passe de se réaliser dans l'été polonais, un socialisme à visage humain ? On se réjouit donc, mais aussi l'expérience fait qu'on a peur. Peur que cette belle victoire se termine sous les chars soviétiques. Si Bernard Marguerite dans le Figaro est relativement confiant, la Pologne, dit-il, n'est pas l'Afghanistan. Le Parisien, en revanche, rappelle que Moscou, dans le passé, n'a jamais fait de cadeau. Dans Le Monde, notre Bernard Guetta, salue également cette victoire, sans qu'aucune goutte de sang ne soit versée. Une victoire qui est, dit-il, l'éclatante preuve de l'intelligence et de maturité politique du peuple polonais et de ses dirigeants. Mais remarque aussi Bernard Guetta, la grande question demeure, les autorités tiendront-elles leurs engagements ? L'humanité, qui juge ces accords de Gdansk positifs, l'humanité n'en doute pas un instant, la critique ouvrière a été acceptée sans réserve par le gouvernement, écrit Luma, les engagements qu'il a pris ne peuvent pas ne pas être tenus. Philippe Tesson, dans le quotidien de Paris, lui, a toujours des doutes sur l'attitude à venir de Moscou, mais quoi qu'il arrive, dit-il, une chose est sûre, les ouvriers ont introduit le ver dans le fruit, ils ont entamé le communisme de l'intérieur, et c'est de l'intérieur qu'il pourrira.
Pas mal vu ce qu'a écrit Philippe Tesson dans le quotidien de Paris en 80, Daniel Beauvois.
Dire que c'est tout à fait prémonitoire. Oui, 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 ça correspond un peu au chapitre que j'ai consacré à ces questions et que j'appelle la sape polonaise du rideau de fer. En fait, nous assistons là à la chute de Gierek, donc qui était pendant 10 ans le successeur de Gomułka, et à l'émergence d'une force syndicale, mais qui est en même temps une sorte de parti. On appelait cela la société en Pologne, parce que évidemment le parti unique n'ayant plus aucune légitimité, le syndicat Solidarność apparaissait en quelque sorte comme un nouveau parti un peu globalisant, mais en tout cas regroupant toutes les forces d'opposition comme le PSL en 46-47. Et votre revue de presse le montre très bien également, il y a le danger, l'épée de Damoclès qui reste suspendu et qui va très vite tomber, puisque dès 81, le général Jaruzelski, qui était déjà très intégré aux structures du parti, qui était ministre des armées déjà depuis fort longtemps, qui va s'attribuer tous les leviers de commande et finalement déclarer le 13 décembre 81 ce fameux état de guerre que l'on se rappelle comme une période particulièrement sinistre, mais qui a provoqué chez nous en France un mouvement de sympathie énorme pour la Pologne. Je crois que jamais, peut-être depuis 1831, depuis l'écrasement de l'insurrection, là, les Français n'avaient été si pro-polonais.
Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zwracam się dziś do Was jako żołnierz.
La voix que vous entendez, c'est celle du général Jaroulewski sur Radio Varsovie. Je m'adresse à vous en tant que soldat et premier ministre, dit le général, qui ne mentionne pas sa fonction de dirigeant du Parti communiste. Il annonce que l'état de siège a été proclamé à minuit. C'est la conclusion politique de la prise en main brutale du pays par les militaires. L'homme fort de Varsovie demande qu'aucune goutte de sang ne soit versée et affirme qu'il s'agit d'une affaire strictement intérieure.
Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni. Dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, cel nie rzucali. Janek Wiśniewski padł. Na drzwiach ponieśli go świętojańską. Naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścicie ducha.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, la Pologne, de la botte soviétique à l'intégration européenne.
Et c'était la ballade de Janek Wiśniewski, une victime de la répression en Pologne, comme le sera d'ailleurs plus tard en 84 le père Popielusko, Daniel Beauvois, assassiné par la milice de Jaruzelski. Alors ce personnage, évidemment, avec ses lunettes noires, tout de suite on l'a appelé le Pinochet polonais. En même temps, aujourd'hui, on se rend compte que c'est aussi, avec la brutalité de la répression qui se met en place en 1981, c'est aussi celui pendant lequel la Pologne a continué d'évoluer vers justement sa libéralisation. En 84, il y a l'amnistie et puis petit à petit, on s'aperçoit que Solidarité, malgré la répression, finit par arriver au pouvoir.
Oui, mais ce n'est sans doute pas grâce à Jaruzelski. Je crois que les Polonais eux-mêmes, d'ailleurs, ont une tendance aujourd'hui à peut-être exonérer Jaruzelski d'une responsabilité très grave dans les événements de l'époque. Si Solidarność a réussi à se remettre en selle et à continuer son action, c'est, je crois, grâce à son obstination, grâce à son organisation, grâce à la puissance du mouvement. Et Jaruzelski a dû suivre. Certes, il a eu la sagesse de ne pas trop s'opposer, mais il faut dire que les premières années de l'état de siège, qui a quand même duré une dizaine d'années, n'ont pas été roses pour les Polonais, et que les années, en particulier 81, 86, 87, ont été terribles, avec une censure implacable, des emprisonnements très nombreux, des camps, etc. Et tous les observateurs de l'époque, je pense, sont d'accord pour dire que la Pologne a vécu là des années très noires.
Alors cela dit, il se passe des choses en URSS, hein, 85, c'est voilà. La perestroïka, bien sûr, qui va permettre de débloquer les choses, l'ouverture d'une table ronde réclamée par Waleza et qui s'ouvre en 89, et qui prévoit les premières élections libres dans le bloc soviétique, en Pologne, avec un premier gouvernement non communiste de Tadeusz Mazowiecki. Jamais on avait vu ça dans un pays communiste, en 89, et ce gouvernement qui organise les premières élections présidentielles libres, qui le 9 décembre 1990 porte à la tête de l'État l'ancien héros des accords de Gdansk, France Inter, Gérard Courchel, le 10 décembre 1990.
Le rebelle devient président. Lech Walesa obtient un peu plus de 73% des voix à l'élection présidentielle polonaise. Il distance son concurrent Stanislas Timinski. Le président Walesa appelle ses compatriotes à travailler pour la réussite économique du pays.
France Inter.
Aujourd'hui, Lech Walesa devient le premier président élu au suffrage universel de l'histoire de son pays. Un succès salué comme tel par les partisans du fondateur de Solidarité hier soir à Varsovie.
Et c'était l'élection il y a 14 ans de Lech Walesa à la présidence de la République polonaise, une République qui entrera samedi, Daniel Beauvois, dans l'Union Européenne, avec un gouvernement, alors là c'est extraordinaire, et un président qui sont tous issus de l'ancien parti communiste. C'est cette Pologne-là, alors que Lech Walesa est mis sur la touche et a fini un peu tristement, c'est cette Pologne-là qui va entrer dans l'Union Européenne, elle n'est plus communiste, mais les dirigeants actuels sont d'anciens communistes.
Oui, c'est le paradoxe peut-être, ou la logique de l'histoire. Je crois qu'il faudra un peu de recul pour en juger. Toujours est-il que ce miracle d'un ancien électricien devenu président de la République n'a pas tenu toutes ses promesses et que très vite, Wałęsa s'est révélé maladroit sur certains points, a commis quelques erreurs, a fait des déclarations qui n'étaient pas tout à fait à la hauteur de sa fonction. Et très vite aussi, les Polonais se sont un peu découragés face au régime un peu draconien que lui faisait subir le ministre Balcerowicz avec une réforme économique extrêmement sévère. Et de ce fait, les gens un peu frustrés par cette marche forcée vers le libéralisme se sont retournés assez naturellement vers les anciens, vers ceux qui disaient avoir changé et qui leur promettaient, disons, un équilibre un peu plus humain dans le traitement des problèmes sociaux.
Avec l'actuel président Kwasniewski, qui est un ancien du Parti communiste polonais, qu'est-ce qu'elle attend, la Pologne, qui va entrer samedi prochain dans l'Union européenne ?
Alors, qu'attend la Pologne ? Eh bien, elle attend sans doute un confort, une économie plus prospère, une solution à ses innombrables problèmes économiques, avec une société qui, démographiquement, n'est pas encore, disons, conforme aux modèles occidentaux, avec une paysannerie pléthorique. Je crois qu'il y a 28% de paysans parmi les actifs encore dans ce pays, et cela va, dans les années qui viennent, poser sans doute de très graves problèmes à cette population. Il y a des infrastructures économiques industrielles obsolètes. Tout cela, il faudra le résoudre, et la Pologne surtout attend une sécurité. Si l'Europe arrive à créer une armée, je pense qu'elle se détournera de l'Amérique, et à ce moment-là, on aura une situation tout à fait différente.
Merci Daniel Beauvois. Pour en savoir plus sur ces événements dont nous venons de parler avec vous, et sur toute l'histoire de la Pologne depuis ses origines, je recommande votre livre, La Pologne, Histoire, Société, Culture, qui a été publié aux éditions de La Martinière. Vous avez également écrit Pouvoir russe et noblesse polonaise en Ukraine, publié aux éditions du CNRS. À lire également Une histoire de la Pologne, de Michal Timowski, ainsi que le dernier numéro de la revue L'Histoire, intitulé L'Europe de Yalta à la Grande Union. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Michel Thomas et Antoine Viossa, documentation et archivina, Claire Destacan, Claire Tesser et Emmanuel Sherman.